Merci, mes sœurs. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui. Bien?
Oui. Marie-Thérèse, merci.
Donc, je crois que si j'ai bien compris, le thème que nous devons aborder aujourd'hui pour la deuxième visio, je relis mon texte. Il s'agit pour moi de parler de l'expérience donnée à vivre au synode, de la conversation spirituelle, ou plus exactement de la conversation dans l'esprit. Pourquoi a-t-elle été mise en pratique? Comment? Quels sont les fruits? Donc c'est bien cela?
Oui, je pense, mais oui, tout à fait.
Parce que je ne voudrais pas répéter des choses que j'ai déjà dites, même si la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais... Alors peut-être que je vous propose, vous voyez, j'ai mis dans mon fond d'écran le pape François. Je vous propose de reprendre cette prière pour le synode qu'il avait prononcée le 9 octobre 2021. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen.
Amen.
Alors, mes sœurs, je vous proposerais bien, en changeant l'image de fond, voilà, j'ai mis derrière moi, vous voyez, les cercles mineurs dans l'Aula Paul VI, qui nous rassemblaient autour du pape et avec le pape, pour justement ces conversations spirituelles en petits groupes. Et je vous rappellerai aussi cette phrase que je crois je vous ai citée la dernière fois, qui dit bien que le défi, c'est vraiment le défi de l'écoute. Et écouter, ça signifie commencer par se taire. Donc cette phrase d'Ernest Hemingway qui dit « Il faut 2 ans pour apprendre à parler et 50 pour apprendre à se taire. » Alors, pour certains, c'est un peu plus de 5 ans. Ça peut être 60, 70, 80, mais il n'est jamais trop tard. Non pas pour apprendre à se taire, parce qu'il y a des moments où il faut exercer notre responsabilité et parler, mais vraiment apprendre à écouter vraiment. Et c'est véritablement le défi du synode, en tout cas le défi que nous a confié le pape François. Alors, je vous proposerai de reprendre quelques-uns des paragraphes du document final du synode, en particulier les paragraphes dans lesquels il est question de la conversation dans l'esprit. Alors, au numéro 1 de ce document, vous savez que le pape veut qu'on considère que ce document est un document de son magistère, même s'il n'a rien modifié du document que les pères synodaux lui avaient proposé. Donc ce document est un document majeur pour nous. Alors, dans le premier numéro, on dit ceci. En vivant la conversation dans l'esprit, en nous écoutant les uns les autres, nous avons perçu sa présence au milieu de nous. C'est la présence de celui qui, en donnant l'Esprit Saint, continue à susciter en son peuple une unité qui est l'harmonie des différences. Donc il y a déjà là quelques notions essentielles. Donc s'écouter les uns les autres, percevoir dans cette écoute la présence du Seigneur qui nous écoute et que nous écoutons à travers l'écoute de la parole des autres. Et puis cette écoute qui n'est pas nécessairement faite pour adhérer au point de vue de l'autre, mais cette écoute qui nous fera accepter peut-être cette harmonie des différences. Ce frère qui parle, cette sœur qui parle, n'a pas la même vision que moi, mais j'accepte cette différence-là. Alors ça, c'était au numéro 1 du document final du synode. Je passe au numéro 10, qui nous dit « Présenter au Saint-Père et aux Églises comme le fruit de la 17e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, ce document final recueille chacun des pas accomplis jusqu'à présent. Il rassemble les principales convergences apparues au cours de la première session, les contributions provenant des églises au cours des mois écoulés entre la première et la deuxième session, et j'insiste sur cette dernière phrase, et ce qui a mûri au cours de la deuxième session, en particulier grâce à la conversation dans l'esprit. Typiquement, ce document nous disent les pères du synode et nous dit le pape, ce document est le fruit qui a mûri au cours de la deuxième session grâce à la conversation dans l'esprit. Cela veut dire que cette conversation dans l'esprit, cette conversation spirituelle, ou dans les groupes ignatiens on dit ce dialogue contemplatif, cela donne des fruits, en particulier pour la conversion à laquelle nous sommes appelés dans la vie de l'Église. Et au numéro 45e, je passe à ce numéro-là, cela nous est redit autrement. Il nous est dit que le fruit de cette conversation, spirituelle dans laquelle on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint et à l'écoute des autres, le fruit de cette conversation spirituelle, c'est en réalité une conversion, une véritable conversion, parce que cela nous rend attentifs à ce que Dieu veut pour nous, et cela nous permet d'accueillir la grâce qui permettra de le mettre en œuvre. Je trouve que ce jeu de mots-là, qui est utilisé au numéro 45e du document final, qui nous dit que la conversation conduit à la conversion, doit nous engager dans une prise de conscience du fait que cet outil est un outil très efficace, très puissant que nous donne l'Église pour repérer une conversion. Je ne sais pas si on vous a transmis une infographie que j'avais transmise à notre sœur qui nous a piloté un peu ce parcours de formation. Si ce n'est pas le cas, je vous la renverrai. Je vais l'illustrer un moment parce que cette infographie nous donne cette pédagogie. Elle passe par 4 étapes majeures. La préparation personnelle, première étape. Seconde étape, prendre la parole et écouter. Troisième étape, faire place à l'autre avec un petit a et à l'autre avec un grand A, qui est Dieu. Quatrième étape, construire ensemble. Et on pourrait en rajouter une cinquième, qui est la prière finale d'action de grâce. Alors, je vous commente un peu ça, pas à pas. Donc, le titre, c'est « La conversation dans l'esprit, une dynamique de discernement spirituel dans une église synodale ». Donc, cette conversation dans l'esprit qui est une dynamique de discernement. Premier point, la préparation personnelle. Préparation personnelle, ça veut dire que avant le temps de la conversation spirituelle, le sujet nous est donné et on doit le porter dans notre prière personnelle, dans notre réflexion, dans notre adoration. Donc on se confie au Père, on dialogue dans la prière avec le Seigneur Jésus, en se mettant à l'écoute de l'Esprit. Chacun prépare sa propre contribution. Parce que si on doit parler sur un temps limité, il vaut mieux préparer sa contribution, même se chronométrer. Vous avez toutes fait l'expérience qu'en général, un sermon qui n'est pas préparé à la messe est souvent trop long. Donc une contribution qu'on doit apporter à cette conversation spirituelle doit être préparée. On s'est plié à cette discipline à Rome avec les pères synodaux, la veille au soir, souvent un peu tardivement. On devait préparer notre intervention de 2 minutes et demie du lendemain pour entrer dans cette conversation spirituelle. Donc ça, c'est en quelque sorte la préparation personnelle en préalable. Quand on se retrouve autour de la table pour ce discernement spirituel communautaire, on commence toujours par un temps de silence et de prière nourri de l'écoute de la parole de Dieu. Donc on ne s'engage pas tout de suite dans le tour de table. Vraiment, on se met devant la parole de Dieu. Et en termes de climat, souvent ça change tout. Parce que c'est une manière symboliquement très forte. Et puis on croit en l'efficacité de la parole. C'est une manière symboliquement très forte de dire que nous sommes à l'écoute du Seigneur à travers l'écoute des autres. L'étape suivante, prendre la parole et écouter. Chacun prend la parole à tour de rôle, à partir donc de son expérience et de sa prière, et écoute, alors que d'une écoute active, écoute attentivement la contribution des autres. Et voilà, on fait un premier tour d'écoute attentive, sans interrompre, sans entrer dans un débat, sans entrer dans une dialectique, dans une polémique, même si en nous ça remue, on se dit « mais je ne suis pas d'accord avec ce que dit cette personne », on se tait. On se tait et on écoute. Après ce temps où on a pris le temps d'écouter chacun sur un temps limité, à nouveau on s'engage dans un temps de silence et de prière. On n'enchaîne pas tout de suite un second tour d'écoute. On s'engage à nouveau dans un temps de silence et de prière, peut-être en relisant aussi le texte de la parole de Dieu qu'on a utilisé au début. Ce silence et cette prière, ça peut être un peu long, on n'est pas obligé de la précipiter. Vous savez, souvent dans nos communautés, on fait des petites prières et des grands repas. Mais on peut prendre le temps de la prière aussi. Et puis après ce temps de silence et de prière, le temps suivant s'appelle faire place à l'autre avec un petit A et à l'autre avec un grand A. Donc on va cette fois à nouveau partager quelque chose qu'on n'a pas préparé par avance là, mais partager à partir de ce que les autres ont dit, de ce qui a résonné le plus en moi ou parfois ce qui a suscité le plus de résistance. Donc on fait un deuxième tour de parole où on prend le temps de s'écouter. Et là, je n'en profite pas pour dire ce que je n'ai pas pu dire la première fois parce que je n'ai pas eu le temps. Là, il s'agit de s'exprimer sur les échos de la parole des autres en moi. D'être capable de dire, tiens, ça, je n'y avais pas pensé. mais vraiment ça me rejoint. Ou au contraire, ça je n'y avais pas pensé, mais je ne le partage pas, il y a quelque chose qui résiste en moi pour adhérer à cela. Il y a une phrase qu'on utilise qui vient aussi de l'Évangile, se laisser guider par l'Esprit Saint. Donc, entre guillemets, la phrase est la suivante. Quand en écoutant, mon cœur a-t-il brûlé dans moi, dans ma poitrine? Vous savez, parfois, on se dit, mais quand on écoute un frère, une sœur, ou Dieu même, à travers l'écoute de sa parole, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Vous savez, c'est la phrase des pèlerins d'Emmaüs, sur laquelle on va méditer ces jours-ci. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous commentait les Écritures? Donc parfois, en écoutant la parole de l'autre, on se dit, mais oui, en entendant ça, je n'y avais pas pensé, je n'ai pas exprimé moi-même, mais mon cœur était tout brûlant. Étape suivante, à nouveau un temps de silence et de prière à travers ce deuxième tour. À nouveau, un temps de silence et de prière, qui peut être aussi un peu long. Et puis, dernière étape avant le temps de la prière finale et de l'action de grâce, l'étape du construire ensemble. Là, on entre plus dans un échange, un dialogue ensemble à partir de ce qui a émergé précédemment, pour finalement recueillir le fruit de cette conversation dans l'esprit, se dire, mais oui, cette intuition-là, elle semble bien partagée entre nous, elle est revenue plusieurs fois, il y a des convergences, donc écrire les convergences. Peut-être que ce travail de la dernière étape, et on a fonctionné souvent comme cela pendant le synode, il est préparé par quelqu'un qui a accepté de tenir le rôle de secrétaire et qui va préparer un texte de synthèse sur les convergences et les divergences sur la base de ce qui a été entendu dans les deux premiers tours. Donc ce texte de synthèse, on en rediscute. Certains peuvent dire, mais là, tu nous proposes comme secrétaire une convergence sur ce point-là, je n'ai pas senti qu'on était si convergent que cela. Par contre, sur ce point-là, je pense qu'on était un peu unanime. Donc on se met d'accord sur, on construit finalement une sorte de consensus qui n'exclut pas de noter des points de dissensus ou des points qui finalement nous laissent pour une part en désaccord. Mais assez souvent, si on s'est engagé dans une vraie conversation spirituelle, à l'écoute de l'esprit et à l'écoute de l'esprit travaillant dans les autres, souvent ce travail final laisse émerger une voix en quelque sorte prophétique, quelque chose auquel on n'avait pas pensé en préalable, mais on se dit, mais oui, de notre discernement spirituel communautaire, finalement c'est ça qui émerge. Donc, quels sont les pas auxquels l'Esprit Saint nous appelle ensemble? Parce que dans une communauté, dans un chapitre, la conversation dans l'esprit ou la conversation spirituelle, elle est orientée aussi à une décision à prendre. Peut-être que on arrivera à la conclusion au moment de construire ensemble, à l'idée que on n'est pas encore mûr pour prendre une décision ensemble. Notre chapitre ou notre discernement communautaire n'a pas abouti, donc il faudra qu'on remette ça sur le métier à tisser, il faut qu'on continue à prier, à échanger, et puis on se réengagera à nouveau dans une conversation spirituelle pour essayer de dégager ce consensus. Alors voilà mes chères sœurs, un peu cette méthode, ce document je le renverrai à nos sœurs de Voiron là pour qu'elles vous le communiquent, mais vraiment c'est une méthode, une pédagogie qui n'est pas un absolu en soi, mais qui est vraiment très efficace. Alors pour le dire autrement, et vous retrouverez cela, et là, je vous commente à nouveau ce passage-là, au numéro 84e, cette fois, du document final du synode. Là, il distingue, c'est un numéro, il y en a un ou deux dans le document final du synode qui est assez concret et assez précis. Il nous dit ceci. Là, je prends le numéro en entier parce que tout est important. Il nous dit « Les étapes du discernement ecclésial peuvent être articulées de différentes manières selon les lieux et les traditions. » La méthode que je viens de vous développer, là, est typiquement de tradition ignatienne. On peut l'adapter, évidemment, en fonction de notre tradition. La visitation a aussi sa tradition, à condition de ne pas perdre les axes essentiels, c'est-à-dire vraiment l'écoute de Dieu et l'écoute de Dieu à travers les autres, cette capacité à être dans une écoute active, à se taire vraiment. Donc, voilà, c'est selon les lieux, selon les traditions, on peut adapter cette méthode. Cependant, sur la base de l'expérience synodale, nous dit le texte, on peut identifier certains éléments clés qui ne doivent pas être oubliés. Alors là, il y en a 6 qui sont cités. Vous les retrouverez facilement dans le document du synode. Premier point, la présentation claire de l'objet du discernement. Donc sur quoi nous réunissons-nous pour discerner, sur quelle décision? Par exemple, est-ce que on va accueillir cette sœur pour sa profession? Est-ce qu'on pense que ça peut le faire, comme on dit? Donc il y a un vrai discernement spirituel communautaire à opérer. Donc la question est claire, accueille-t-on, oui ou non? Ou pas encore, si on n'est pas arrivé à des délais extrêmes, parce qu'au bout de quelques années, on est obligé de faire un choix, on ne peut pas faire attendre la sœur ou le frère pendant des décennies. Donc oui ou non, ou peut-être, mais en tout cas pas aujourd'hui. Donc présenter clairement l'objet du discernement, ça peut être la question de travaux à engager ou d'un patrimoine immobilier dont on va se défaire justement pour pouvoir engager des travaux ailleurs. Ou ça peut être des choses plus radicales. En ce moment, avec une communauté, on réfléchit au départ des sœurs, peut-être vers un autre lieu parce qu'elles ne sont plus en capacité de vivre dans le lieu où elles sont. Elles ne sont plus assez nombreuses pour faire face au défi de la vie communautaire et de la mission sur ce lieu. Donc, devons-nous partir? Si oui, où? Partons-nous ensemble? Ou est-ce qu'on module les choses en fonction des sœurs? Donc, question, précisez vraiment bien la question. Et puis, mettre à disposition un certain nombre d'arguments. Je reviens à la question d'une sœur, est-ce qu'on l'accueille pour sa profession? Si ceux et celles qui ont eu la charge de son accompagnement ont des informations à nous donner, en sa faveur ou en sa défaveur, concernant des forces ou des fragilités de cette sœur, il faut qu'il nous donne ces informations, parce que sinon on n'a pas les clés pour opérer un discernement. Sauf illumination en particulier de la part du Seigneur, mais ce n'est pas toujours donné. Donc, présentation claire de l'objet du discernement, c'est le premier point, et mise à disposition des informations. Deuxième point, un temps convenable pour se préparer par la prière. Ça, vous en avez l'habitude, évidemment, dans vos traditions. La prière, l'écoute de la parole de Dieu et la réflexion sur le sujet. On ne va pas discerner à la va-vite. On prend le temps de se mettre devant Dieu, devant sa parole, et on prend aussi le temps de la réflexion. Parce que si Dieu nous a donné une raison, c'est pour que nous nous en servions. Donc, un temps convenable. Non pas une petite prière comme ça en passant pour se rappeler qu'on est chrétien et qu'on est religieux ou religieuse, mais vraiment un temps consistant. J'ai souvenir avant qu'on entre dans une démarche de conseils épiscopaux dans des diocèses pour lesquels pratiquement on s'engageait dans la gestion des dossiers sans avoir pris un véritable temps de prière. Parfois on prenait un temps un peu formel, mais c'était pas mis un peu longuement devant la parole de Dieu. Donc vraiment, c'est une étape essentielle. N'oublions pas que c'est un discernement spirituel. On n'est pas dans une entreprise ou dans une association laïque. Donc, la première écoute, c'est d'abord l'écoute de Dieu. Donc, un temps convenable pour se préparer, la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la réflexion sur le sujet. Troisième point, et ça, il faut demander cela comme une grâce, et je crois qu'on en a déjà parlé, une disposition intérieure de liberté. Demandez au Seigneur la liberté intérieure. C'est-à-dire que si, par rapport à une décision à prendre, j'ai un avis bien arrêté et que je me dis de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi que me disent les autres, je ne suis pas prêt à changer, ça veut dire que je ne suis pas libre. Donc il faut demander comme une grâce, et travailler aussi, se le redire à soi-même, ça peut nous aider, cette disposition intérieure de liberté à l'égard de ses intérêts personnels, voire des intérêts collectifs, et un engagement dans la recherche du bien commun. Ces intérêts personnels, ça peut être parfois tout simplement une sympathie ou une antipathie. Dans une communauté, on n'a pas forcément de la sympathie pour tout le monde. Cette sœur que l'on doit accueillir, j'ai pas particulièrement d'atomes crochus avec elle et je risque d'être négatif. Comment j'essaie de gagner en liberté par rapport à mes émotions, mes sympathies ou mes antipathies? Ou parfois par rapport à mes idéologies? Par rapport à ce que je suis, je trouve que ce frère ou cette sœur sont un peu classiques et ça m'énerve. Ou au contraire, je trouve que ce frère ou cette sœur sont un peu trop ouverts et ça m'énerve. Vous voyez, une liberté par rapport à sa propre sensibilité ou par rapport à son idéologie, par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à ma culture personnelle. Donc, et ça, c'est certainement, ce troisième point-là, c'est certainement une clé majeure. Bon, toutes les étapes sont importantes, mais c'est parfois la chose qu'il faut travailler le plus, parce que cette liberté intérieure, tant qu'on ne l'a pas acquise, on ne peut pas se mettre vraiment à l'écoute de Dieu et des autres, parce que notre choix est déjà arrêté. Quatrième point, ça rejoint bien sûr ce que nous avons dit en commentant l'infographie, une écoute attentive et respectueuse de la parole de chacun et de chacune. Une écoute attentive. Et c'est pas si simple non plus. Une écoute bienveillante, vouloir le bien de l'autre, se dire que même cet autre, même si c'est pas une personne particulièrement illuminée, dans son intelligence, elle n'est pas réputée pour avoir une brillante intelligence, mais oui, mais c'est une personne baptisée, et peut-être que Dieu va nous, à travers elle, nous transmettre la parole de vérité. Ça peut être même une personne handicapée, ou une personne qui commence à être un petit peu confuse à cause du vieillissement cérébral, et pourtant, à un certain moment, elle peut avoir une parole qui va nous éclairer. Donc une écoute attentive, bienveillante, respectueuse de la parole de chacun et de chacune. Essayez de lutter contre ces agacements intérieurs qui nous feraient fermer les écoutilles ou ne plus écouter. Cinquième point, l'avant-dernier. La recherche d'un consensus le plus large possible. Il faut rechercher ce consensus, parce que le consensus, l'autre mot pour dire consensus, c'est la communion. Si être défenseur de la vérité, ça divise, bien parfois il faut peut-être accepter de se dire « je fais prévaloir la communion par rapport à la défense de ce à quoi je tiens. » Dit tant pis, la communion, c'est un bien plus grand que ce qui me semble pour moi une évidence intellectuelle. Les gens n'adhèrent pas à cette évidence. Je veux rester en communion avec eux. Eh bien, je renonce. Donc, cette recherche du consensus. et qui émergera. Là, on retrouve cette phrase du récit des disciples d'Emmaüs à travers ce qui fait le plus brûler les cœurs. Mon cœur n'était-il pas tout brûlant ? Oui, là, il y a quelque chose qui nous vient de Dieu, pas seulement de notre sensibilité, de notre héritage, de nos opinions, de notre idéologie, mais ça brûle, donc ça veut dire que ça vient de Dieu. Alors, cette recherche de consensus ne doit pas non plus, et la recherche de la communion, ne doit pas nous conduire à nier les conflits qui ont surgi ou les incompréhensions. Il ne s'agit pas de trouver un compromis au rabais. On peut dire à un certain moment, et cela nous arrive de dire ça dans des conseils, et j'imagine dans vos chapitres aussi ou dans vos conseils, il arrive que l'un ou l'autre d'entre nous dise « je vois bien que mon point de vue n'a pas retenu la majorité des avis, et même que la majorité est plutôt contraire à mon point de vue, je reste convaincu que c'est une mauvaise idée que ce choix qu'on s'apprête à prendre, mais je vous suivrai parce que je n'ai pas à faire prévaloir mon avis, mais je redis mon désaccord. Il faudra juste veiller, et ça c'est parfois une tentation, en admettant que celui ou celle qui a été minoritaire, après, les événements lui donnent raison. Ça peut arriver, hein. J'imagine que vous avez expérimenté ça. Il faudra quand même, par humilité, être capable de ne pas arriver devant ses sœurs et de dire « Voyez, je vous l'avais dit, vous n'avez pas voulu m'écouter. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. » Il ne faut pas avoir cette attitude triomphante ou triomphale. Il faut plutôt avoir une attitude plus modeste et plus humble. Parce que si ça n'a pas marché, ce n'est pas forcément parce que c'était une mauvaise idée. C'est à cause d'un enchaînement de circonstances parfois défavorables, mais ça aurait pu marcher malgré tout. Bon, voilà. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là parce que dans une vie communautaire, c'est vraiment important. Et puis, en dernière analyse, et je reviens là-dessus parce que notre pape François était en quelque sorte un bon jésuite. Il était un peu un spécialiste de ce type de fonctionnement. Donc, il était dans une véritable écoute de chacun et de chacune. Et je l'ai expérimenté de nombreuses fois quand il nous a reçus à Rome pour la formation des nouveaux évêques. Donc, on a échangé avec lui quand il nous a reçus pour la visite ad limina, la visite régulière des évêques français, pour écouter nos questions. Quand il était, alors que j'ai passé finalement ces dernières années, j'ai passé 2 mois complets en présence du pape, qui prenait le temps de nous écouter, d'écouter les personnes membres du synode. Donc c'est vraiment un homme qui était à l'écoute. Maintenant, il va continuer à être à l'écoute d'une autre manière. Et il va continuer à nous accompagner, je pense. Donc un homme vraiment à l'écoute, mais qui, à un certain moment, ne se défaussait pas par rapport à sa responsabilité. Après avoir écouté les avis même majoritaires, s'il n'était pas d'accord, il était capable de le dire et de dire « Non, je ne suis pas d'accord, je suis le pape, cette responsabilité m'a été confiée, je ne vais pas me défausser par rapport à ma responsabilité de successeur de Pierre. » Et je choisis que nous allions dans cette direction, même si personne ne me l'a demandé, et même si je vois bien qu'il y a des résistances. Ces efforts pour réformer la curie, quand même, ils ont rencontré d'énormes résistances. Et j'étais toujours un peu scotché quand j'écoutais, au moment des vœux adressés à toutes sortes de catégories de personnes, dans des périodes de début d'année, ces vœux à la curie, c'était souvent un petit peu du lance-flamme, parce qu'il y avait des résistances. Donc à un certain moment, le pape ne se défaussait pas. Il nous a rappelé plusieurs fois que la démarche synodale n'était pas une démarche démocratique au sens strict du terme, au sens et démocratie participative que sont nos sociétés démocratiques ou nos associations, dont nous avons l'expérience dans ces pays qui sont les nôtres, qui, grâce à Dieu, sont encore démocratiques. Mais donc, ce n'est pas une démocratie, c'est une vraie démarche d'écoute. Mais à un certain moment, celui auquel revient la responsabilité de décider, doit décider. Et la plupart du temps, il suivra l'avis majoritaire, mais dans certains cas, en conscience, il dira non, là je ne peux pas aller dans ce sens-là, bien que vous me le demandiez. Alors, vous savez bien que ça génère des frustrations parmi le peuple de Dieu que l'on consulte, qui confond parfois synode, synode diocésain ou synode pour l'Église universelle et démocratie. Si en démocratie, si la majorité des membres, des citoyens, des membres du peuple demandent la remise en place de la peine de mort, eh bien, le chef d'État est obligé de se plier à ce vote du peuple. Dans l'Église, si une majorité de chrétiens baptisés, consultés, disent « on a modifié le catéchisme en renonçant à la validité de la peine de mort, il faut le remodifier dans l'autre sens », eh bien, le pape, dans sa responsabilité, peut tout à fait dire « non, je ne ferai pas cela ». Donc, il est arrivé plusieurs fois au pape, après le synode sur l'Amazonie, je crois que je vous l'avais déjà partagé, la majorité des consultations allaient plutôt dans le sens pour l'Amazonie, non pas pour l'Église universelle, mais pour l'Amazonie, d'ordination comme prêtre de viri probati, c'est-à-dire d'homme marié de bonne réputation. Le pape a dit non, là je ne suis pas les avis majoritaires du synode. En conscience, je n'éprouve pas de consolation intérieure par rapport à cette décision à prendre. C'est un jésuite, hein, pas de consolation intérieure, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc il a choisi explicitement, en s'en expliquant, de ne pas aller dans ce sens-là. Donc voilà, ce dernier point est important aussi. Donc voilà ce paragraphe, n'hésitez pas à le reprendre, à le méditer, à le partager en communauté, ce paragraphe 84e dans le document final du synode. Et puis, et je terminerai par là, si vous le voulez bien, avant d'ouvrir sur un échange, sur des questions. Dans l'Église, c'est le numéro 87e. Et je pense que c'est un numéro important. Il commence comme ceci. Dans l'Église synodale, ouvrez des guillemets. Et là, les guillemets s'ouvrent sur une citation d'un texte de la Commission théologique internationale. Dit la communauté tout entière, dans la libre et riche diversité de ses membres, est convoquée, donc la communauté tout entière, donc tous les membres de la communauté, est convoquée pour prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et conseiller afin de prendre des décisions. Vous voyez, on retrouve toutes ces étapes de la conversation spirituelle ou de la conversation dans l'esprit, prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et conseiller. Ça reste une logique de conseil, hein. Conseiller afin de prendre des décisions, en vue de la prise de décision. Donc le pape François nous a invités et notre Église nous invite à revoir nos modes de gouvernance pour que la consultation, non pas pour que ceux qui ont la charge de gouverner renoncent à gouverner, mais pour que la consultation de tous les membres de la communauté soit élargie le plus possible et le plus souvent possible au moment d'élaborer et de prendre des décisions. Donc, nous sommes invités à une vraie réforme de la gouvernance dans notre Église. Et le pape, très tôt, déjà avant même l'ouverture du synode, en août 2018, quand il adressait sa lettre au peuple de Dieu autour de la question dramatique des abus sexuel dans l'Église, il disait, mais on a été conduit à de telles situations, et c'est une des causes, parce que finalement, on a laissé décider une petite élite, alors on a infantilisé le peuple de Dieu et on n'a pas consulté assez largement quand il y avait des décisions à prendre. Et si nous l'avions fait, dit-il, nous aurions sans doute évité des abus de pouvoir, des abus d'autorité, qu'on finit par conduire à des abus sexuels. Donc cette question de la modification de la gouvernance dans l'Église, de la réforme de la curie, de la réforme de la gouvernance dans nos églises diocésaines, dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses, est vraiment ancrée dans la prise de conscience que cette gouvernance assez cléricale, c'est-à-dire par un simple petit groupe de personnes décidant pour l'ensemble de la communauté, nous a conduit dans des impasses dramatiques, dans des drames qui ont blessé considérablement des personnes. Alors ce document, est, donc ce numéro 87e, et ce passage que je viens de vous citer, est complété par la communauté tout entière, doit écouter, analyser, etc., par une locution qui dit « pour la mission ». Donc l'objectif, n'oublions pas, c'est d'être témoin du Christ et de l'Évangile. Et pour favoriser la participation la plus large possible de l'ensemble du peuple de Dieu au processus décisionnel, et c'est le moyen le plus efficace de promouvoir une église synodale. Donc je termine vraiment par là. Favoriser la participation la plus large possible de l'ensemble du peuple de Dieu au processus décisionnel. Voilà vraiment l'enjeu de la conversation spirituelle. J'en ai fini, mes sœurs, et je vous renvoie la parole.